RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludovic Obraniak et Jonathan McCardy et Alexis, supporter de Nice, qui nous a appelé au 32-16. Tiens, Alexis, je te propose d'écouter la fin de la conférence de presse en direct de Patrick Vieira.
Et c'est vrai que je suis déçu aussi pour lui parce qu'il mérite d'être au moins à 4-5 buts. Et c'est pour ça, il faut qu'il continue à travailler, ça va venir.
Bien, Patrick Vieira sur Maolida, justement, on en parlait il y a quelques secondes, un partout ce soir entre Toulouse et Nice.
Il va travailler pour lui permettre de retrouver son niveau. Pour qu'il puisse aider l'équipe. C'est ça que j'attends de lui.
C'est sur Balotelli.
Sanction ? Je ne suis pas quelqu'un qui sanctionne les joueurs, moi.
On l'a lâché pendant 15 jours pour qu'il soit prêt pour Marseille ?
Oui, on ne l'a pas laissé depuis. On ne l'a pas laissé auparavant, on ne va pas le laisser maintenant. On sait les manques qu'il a. Il travaille, il continue à bien travailler. Et j'ai aucun doute que ces 15 jours vont nous aider à améliorer son physique. Et à partir du moment où il sera bien, il jouera.
On va plus que jamais, on a besoin d'un Mario efficace.
Non, ce qu'on a besoin, c'est que les joueurs qu'on a sur le plan offensif mettre les occasions au fond. Après, Mario, il est capable de le faire, comme Alan, qui encore une fois ce soir a été très bon. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe. Et c'est ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est que les attaquants se mettent au service de l'équipe, que ce soit Mario ou les autres.
Merci, coach.
Voilà, c'était Patrick Vieira en conférence de presse en direct, donc un partout ce soir entre Toulouse et Nice. Très élogieux à l'égard d'Alan Saint-Maximin notamment.
Et pour revenir deux secondes sur le cas Maolida, finalement son match il bascule ce soir sur le fait qu'il met pas cette occasion.
Exactement.
S'il met ce but là, tu dis qu'il a fait un très bon match, parce qu'il a participé, il a beaucoup donné sur le plan défensif.
Il a pesé sur la défense toulousaine.
Il est un bon point d'appui pour ressortir le ballon. Et on parle de Balotelli qui aurait sûrement mis des buts, mais il aurait peut-être moins défendu. Il a beaucoup défendu.
Non, il a été très bon.
Ce qui fait que ça contribue à l'équilibre général de cette équipe.
La seule chose qui lui manque à Maolida, et c'est le même défaut qu'il avait à Lyon avec les jeunes, c'est le même défaut qu'il avait un petit peu en équipe de France U19, c'est que dans le jeu il est très bon. Il fait les efforts défensifs, mais parfois, face au but, il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais de dire, je reviens à Alexis, à notre auditeur, de dire que 10 millions c'est une banane, je trouve ça quand même très sévère.
C'est pas la chose la plus dure à travailler. Moi qui étais avec Pierre-Emerick Aubameyang quand il était à Lille, il avait des qualités de vitesse, de prise d'espace
sur le premier ballon. Ouais.
Il était moins à l'aise devant le but. Christophe Galtier l'a pris en main quand il arrive à Saint-Etienne, ça avait déjà été le cas à Monaco. Il a beaucoup bossé devant le but, c'est devenu un tueur. Ça se travaille.
Reprenons Alexis justement qui était avec nous, le supporter de Nice qui nous appelait. Au 32-16, tu l'as entendu là, Patrick Vieira sur Balotelli.
Ouais,
il
n'y
a
ouais,
pas
ouais,
de sanction
ouais.
à l'encontre de Balot d'après Patrick Vieira.
Ah, ils en ont besoin hein, surtout.
Il faut qu'il se remette physiquement. Apparemment, on comprend pas pourquoi il est pas bien physiquement au bout de 2 mois et demi maintenant qu'il est revenu à l'entraînement. Mais bon. On veut bien l'entendre. On verra bien. S'il revient contre Marseille, qu'il nous claque de but, on aura oublié ça à moitié, on va dire.
Mais parce qu'il a pas envie, tout simplement.
Il a pas
digéré encore.
Contre Marseille,
transfert
il y aura les spotlights sur lui. Il y aura l'histoire avec le club dans lequel il a failli signer, il sait que ça va être médiatisé, ça m'étonnerait pas de voir un grand Balotelli contre Marseille. Après, effectivement, il y a quand même la carence physique où tu vois qu'il est quand même.
Mais il faut pas qu'il oublie qu'il doit beaucoup aussi au club de Nice, qu'il l'a relancé à un moment où personne voulait le prendre.
Ludo, j'adore ce que tu dis, mais t'es un peu un bisounours sur le coup. Tu penses qu'il pense à quoi, Balotelli? Pense à sa gueule, il s'en fout. Il en a rien à carrer. C'est ça qui est malheureux avec ça.
En l'occurrence, pour le moment, il y a rien d'autre. Donc,
il va attendre. Tu vas voir qu'il va se réveiller et puis que son agent va faire du ramdam pour essayer de trouver un autre club en janvier. Le problème, c'est ça avec Balotelli, c'est que Nice en a besoin parce que c'est quand même quand il a envie, quand il est motivé, c'est quand même un attaquant de très bon niveau. Mais c'est que lui, Nice, c'est son paillasson. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable.
Ouais, l'année dernière, t'avais pas l'impression que Nice était son paillasson.
Bah, s'il voulait se barrer, Nico.
Au final, il est resté.
Pourquoi il est resté, Nico?
Ouais. Il est obligé de rester. Sinon, il
n'était
nulle part.
Il n'avait pas d'offre.
Tiens, un mot, Alexis, également sur le calendrier à venir également de Nice. Prochain match, ce sera Marseille. Ensuite, il y aura un match à Bordeaux. Il y aura un match de Coupe de la Ligue également ensuite face à Auxerre. Il y a deux rencontres importantes à venir là pour les Aiglons aussi. Hein.
Ouais, Nice-Marseille et le déplacement à Bordeaux. Ouais, non, mais après, sur ce que j'ai vu dans le jeu ce soir, je suis quand même rassuré. Il manque juste les 3 points, c'est dommage. Et je pense que le 3-5-2, là, commence à prendre forme. L'Esmelou, il m'a fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir comparé au début de saison de merde qu'on a fait. Je pense qu'on
progresse.
Et puis j'ai vraiment hâte de voir un gros match, parce qu'à Lyon, on gagne vraiment par miracle. Contre Paris, bah malheureusement, bah tu peux rien faire contre Paris qui est une cylindrée incroyable. Là, le match contre Marseille, je l'attends. Il y a la trêve, il y a la trêve entre. Je sais pas si on a beaucoup d'internationaux qui partent, à part Attal, il me semble, Saint-Max avec les jeunes. Mais on va pouvoir travailler et pourquoi pas se préparer à
Alexis,
Marseille.
Tu sais, ouais. Le problème que je vois à Nice, c'est que dans cette équipe-là, dans la manière dont ils jouent, tous les joueurs notamment font vraiment beaucoup d'efforts. Tu vois, tu peux pas leur reprocher, tu peux pas reprocher à un joueur de pas faire d'efforts défensifs. Et je pense que les joueurs offensifs, en dépensant autant d'énergie à se replier, à bloquer leur couloir, je pense à Saint-Maximin et à Srarfi, ils perdent forcément un petit peu de lucidité devant le but. Et ce qui te manque vraiment, c'est un avant-centre qui soit, voilà, c'est une occasion, un but. Et ça, c'est quand même compliqué à avoir quand t'as un club comme Nice.
Et là, vous pensez que Jallet dans le 3-5-2, on le reverra plus, Jallet, parce que
je
trouve ça intéressant.
Vu les performances du petit à droite, honnêtement, c'est compliqué.
C'est une question de blessure.
Nico a raison.
Tu le reverras dans un turnover.
Mais c'est une question de caisse, c'est une question de forme. Jallet, il a rendu de fiers services à tous les clubs dans lesquels il est passé. Mais pour jouer dans ce système-là, et quand tu vois la débauche d'énergie d'Atal, Jallet, je sais pas s'il a encore la caisse pour faire ce genre d'effort.
Merci de nous avoir appelé.
Après, je voulais juste rajouter quelque chose, les gars, si possible. Moi, j'ai trouvé quand même sur la fin de match qu'il y avait les moyens. Bah, je regardais le match à la télé, on va pas citer la chaîne. Mais le Toulousain, on dit ouais, il reste 10 minutes, c'est mieux qu'on conserve le point du match. Mais moi, j'ai trouvé quand même bien.
T'entends plus, Alexis, là. Alexis?
Ouais, je suis là, ouais.
Ouais, là, je t'entends, là, vas-y.
J'ai trouvé quand même Vieira friable dans ses changements. J'ai trouvé qu'il satisfaisait du point du match nul, tandis qu'il y avait quand même la place d'aller faire quelque chose dans les 10 dernières minutes, je pense. On a eu Saint-Maximin remplacé par Sacco, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu, et Srarfi par Walter, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu non plus. J'aurais bien aimé voir le retour de Ganago et d'avoir essayé de plus aller chercher la gagne quand même, quoi.
Il a été plutôt lucide sur le match. Quand tu rates cette occasion-là, avec la dépense d'énergie de Saint-Maximin qui a baissé un petit peu de d'intensité sur les 10 dernières minutes, je pense qu'il a compris la situation et qu'il s'est dit bon, on rate le coche, mais au moins il faut repartir avec un point.
Ouais, c'est vrai.
Bonne soirée, Alexis. Messieurs. Allez, salut, à bientôt, Alexis. Merci de nous avoir appelé. Salut, ciao. On accueille Younes, fidèle auditeur de l'After et grand supporter du TFC
et de MMA.
Oui, il aime le MMA aussi, Younes.
Salut à tous, vivement demain.
Vivement demain, ouais, comme tu dis, Younes.
22h30, RMC Sport 4, Younes.
Toi, tu as passé toute la soirée devant RMC Sport 4 demain, toi, c'est ça?
Bah oui, bien sûr, jusqu'à 6h du matin, 7h du matin.
C'est parce qu'en vrai, il aime bien m'admirer, en fait, Younes, je pense.
Non, et on sera sur Twitter avec... Et au passage, je passe un petit bonjour à Daz et à Samir, ils se reconnaîtront.
À mon petit Will et à Samir.
Et je leur donne rendez-vous demain sur Twitter pour parler du combat. Voilà.
On s'est fait un débrief sur WhatsApp, Younes, là, je te dis, où Daz il en feu.
Donc demain, tout le monde va
devoir supporter. Ah, d'accord, ok, mais y a pas de souci, je te passerai mon numéro, comme ça on fera ça. Et on va revenir quand même au match. Il y a des choses que je comprends pas avec Casanova. On s'était un peu enflammé au début de saison. Bon, c'était un peu compréhensible. Vu qu'on voyait rien avec lui pendant 8 ans. Il y a des choix que je comprends pas. Bon, déjà,
Ouais, Younes.
Allô, Younes.
Younes?
On l'a perdu.
Ah. Younes? Bon, on va te rappeler, Younes.
Ça, c'est pour toutes les photos qu'il m'a envoyées, qu'il m'a envoyé sur Twitter avec ses plats de vacances au Maroc pendant que j'étais à Paris. Il était très mal vécu, tout ça.
Alors, c'est vrai que pour Toulouse, là, ça commence à patauger un peu, là. Cinquième match en victoire pour le TFC. Voilà, ils commencent à rentrer dans le rang, les Toulousains. Comment vous les trouvez, vous, en termes de jeu, notamment? Parce que c'est souvent le reproche qu'on faisait d'ailleurs à Alain Casanova, auparavant.
Mais justement, c'est peut-être, à juste titre, on trouvait, son ancienne période au TFC, qu'il avait un profil plutôt de coach défensif. Or là, c'est plutôt le contraire depuis le début de saison. On voit qu'il essaye des choses encore ce soir sur sa compo de départ. Ton équipe, elle est quand même assez offensive. T'as 5 joueurs à vocation offensive. Ils décident de laisser Sangaré devant la défense et de mettre quand même Durmaz
et Garcia
pour animer le jeu. Or, tu te rends compte que finalement, à vouloir trop jouer l'offensive, il y a eu énormément de déséquilibre, sachant que tu peux pas t'appuyer sur une défense. Regarde, à l'image du contre qu'ils prennent sur le but, où ils sont éliminés à 6 joueurs sur la contre-attaque. Mais ça s'est vu beaucoup de fois dans le match. Et au niveau de l'intensité, Durmaz et Garcia se sont fait manger par Tamézé et Lesmelou. Donc, je sais pas, est-ce que... Et en plus, sur la profondeur de banc, tu vois que pour symboliser un peu ce manque de combativité, tu fais rentrer Cahuzac. Donc, est-ce que Cahuzac, c'est ton meilleur élément pour pouvoir faire la décision? Je sais pas.
On aura Alain Casanova dans un symbole, instant en direct en conf de presse également.
Le truc, c'est que cette équipe, on était enthousiaste parce qu'elle est quand même vachement dépendante de ce que peut ou ne peut pas faire Garcia. Dans les bons matchs que Toulouse a fait, Garcia à chaque fois a été très bon. C'est un joueur qui est vraiment agréable à avoir joué. C'est lui qui est vraiment à la base des offensives toulousaines. Il a une qualité de passe et une vision du jeu qui sont supérieures par rapport à la normale. Mais comme tu l'as dit, Ludo, l'équipe elle est déséquilibrée. Donc on sait que Casanova a toujours eu ce fantasme d'être un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Il s'est dit vas-y, je reviens à Toulouse cette fois, c'est fini le béton. Je vais vraiment essayer de mettre en place les idées que j'ai. Et à chaque fois, ces équipes depuis le début de la saison, elles sont quand même un petit peu déséquilibrées. Et en première mi-temps, je sais pas si vous allez penser à la même chose, mais sur les 45 premières minutes au milieu de terrain, ils sont inexistants. Ouais, ils récupèrent pas un ballon. Alors Garcia et Durmaz, c'est très bien pour créer du jeu, mais il faut quand même récupérer le ballon pas trop bas non plus. Et à Sangaré était tout seul, il prenait des vagues à 1 contre 4, à 1 contre 5, 3, 4, 5 fois j'ai noté ça. C'est quand même très déséquilibré.
Mais au début, ça a marché parce que il y avait la surprise d'Osevi, Gradel,
Exactement.
Qui percutait beaucoup sur les côtés. Aujourd'hui, c'est les adversaires ont compris un peu
Garcia qui était moins connu et qui donc était un petit peu plus dans un fauteuil pour
Toulouse est quand même dépendant de ces joueurs-là. Or, si tu veux jouer l'offensive, t'as besoin d'un peu plus de sécurité défensive et en ce moment la charnière centrale du TFC c'est pas l'assurance touriste non plus.
Moi j'ai trouvé que Cahuzac quand il est rentré,
on l'a retrouvé Younes, les gars.
Il est dans ce qu'ont pas fait les autres, dans l'agressivité.
Exactement.
Dans le combat.
Younes, supporter du TFC et de nouveau parmi nous. Younes, ça a coupé tout à l'heure.
Ouais, mais non mais ça a coupé parce que j'étais à côté de la voiture, le Bluetooth il s'est mis tout seul ce couillon. Enfin, la technologie. Non, en fait ouais, non mais je suis d'accord avec vous. Ouais, moi écoute, j'ai 3 enfants, alors c'est une familiale.
Bienvenue au club.
Quand il va au Maroc, il prend la bagnole comme ça, mais les 3 gamins.
Non, hein. Normalement, tu veux que la bonne voiture pour aller au bled, t'es un R18 break.
Tu veux que je te dise? Je suis parti hier matin à 4h du matin du Maroc pour arriver cet après-midi pour pouvoir aller au stadium.
C'est beau.
Et non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, par rapport à Manu Garcia, justement, l'équilibre est venu en deuxième mi-temps quand il a fait rentrer Cahuzac. Parce qu'en fait, Durmaz, c'est un joueur que j'aime bien, mais il joue pas à son poste. Et Manu Garcia se retrouvait en 6. Et ce mec-là, faut pas lui demander de gratter les ballons. Et c'est un 10. Il faut qu'il donne, il faut qu'il distribue. Le truc, c'est que
il faut l'entourer d'un joueur un peu costaud.
Mais dans les autres matchs où on a été bon, c'est qu'on avait Bostock qui faisait ce boulot-là. Donc quand t'as Bostock avec Sangaré, derrière Manu Garcia, lui, c'est royal pour lui. Il a deux gars qui s'occupent de récupérer les ballons et qui lui donnent. Après, il peut distribuer sereinement.
Tiens, Younes, je te coupe. On va aller écouter coach Casanova en direct en conférence de presse partout ce soir entre Toulouse et Nice.
Pas comme on l'espérait. Dû à l'adversaire, parce qu'on est tombé sur un adversaire de grande qualité. On avait fait 10 bonnes premières minutes, mais ensuite, devant leur pression haute, devant leur organisation pour nous empêcher de bien ressortir le ballon, on a perdu un petit peu confiance, et puis on s'est mis un petit peu en difficulté. On voulait avoir le ballon et surtout pas leur laisser, parce que vous avez bien vu que ils ont de l'expérience, ils ont une grande maîtrise individuelle et collective. On était loin dans l'impact, on était loin dans les duels. On avait l'impression d'être en infériorité numérique, alors que on était souvent en infériorité positionnelle, tout simplement. Donc une première mi-temps où je pense que elle est totalement à leur avantage et ils ouvrent le score totalement logiquement. Une deuxième mi-temps où là, comme vous l'avez dit, je pense qu'une nouvelle fois l'équipe fait preuve de ressources mentales, de valeurs sur le plan psychologique extraordinaire. Elle va chercher l'adversaire beaucoup plus haut en mettant une grosse pression sur leurs 3 centraux, en prenant des risques, en se situant souvent en 1 contre 1 dans des zones sensibles du terrain. Et puis elle revient au score, je pense, de manière logique. Elle peut même l'emporter. Frustré sur la première mi-temps, content sur la deuxième. Et puis pas trop satisfait de prendre qu'un seul point. Je pense que depuis un petit moment, c'est pas suffisant sur le plan comptable.
Allez, Alain Casanova en direct en conférence de presse. Il a un peu dit ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Une mi-temps chacun, une pour Nice, une pour Toulouse, également.
Ouais, mais ça vient d'une petite erreur individuelle et c'est pas une action où on est déséquilibré, où c'est eux qui gagnent l'avantage. Je pense que c'est pas une action à retenir dans mon esprit. Ouais.
Bah ouais.
Oui. c'est quelqu'un qui a un gros coffre, mais c'était son premier comme match depuis très longtemps, même s'il avait fait des matchs en N3. Il avait joué en, on avait fait un match amical contre Eba. Après, entre l'intensité de la Ligue 1, les émotions, je pense que, voilà, il y a eu un impact sur le plan musculaire et il commence à avoir des crampes et c'était difficile pour lui.
Allez, c'était donc Alain Casanova, son analyse après ce match nul un partout ce soir entre Toulouse et Nice. Younes, t'en penses quoi des mots de ton coach d'Alain Casanova, là?
Allez. Ce qui s'est remis. Alors, allô, je suis là.
Ouais, vous m'entendez?
Ouais, non. Ce que je comprends pas, c'est, enfin, comme je vous dis, il y a des choix, des choix de joueurs que je comprends pas. Comme quand il fait rentrer Silla à droite, alors que Moreira n'a pas été si mauvais que ça. Silla, déjà à gauche, il fait peur. Alors à droite, c'est même pas la peine. Et dès qu'il est rentré, de toute façon, on n'a pas eu un débordement sur la droite. Ce qui était logique après tout, hein. Moubélé, enfin, quand le Niçois, j'entendais parler de la carotte Maolida, je crois, à 10 millions. Ben, nous, on en a pris une avec Moubélé, 3 millions et demi. Ce mec-là, on l'achète il y a un an et demi au mercato hivernal quand on jouait le maintien, on n'était pas bien. Ce mec-là, enfin, je sais pas, il sait pas faire une passe, il sait pas faire un contrôle, il est hors sujet, ce mec-là. Ouais, compliqué, mais c'est pas que ce match, quoi. C'est à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est toujours pareil, quoi. Donc bon, on n'a pas Sanogo, on n'a pas Leia, déjà qu'on n'a pas des monstres en neuf, lui, il fait vraiment peur, quoi. Après, c'est dommage parce que là je suis franchement honnêtement je suis énervé aujourd'hui parce que autant contre Saint-Etienne on fait un bon match, on fait trois erreurs défensives, on leur fait trois cadeaux, mais on fait dans l'ensemble on fait un bon match. Là on fait vraiment un mauvais match. En deuxième mi-temps on a été un peu mieux, mais
Younes, il s'est trompé dans sa composition de départ. Je pense que Casanova, il souffre d'un espèce de syndrome de l'ostensible volonté de démonstration offensive. On l'a tellement catalogué de défenseur, d'entraîneur défensif, de vouloir bétonner, et là la composition d'équipe qui sort, le 11 de départ qui sort, c'est pas du tout équilibré. Et
t'as 5 offensifs, 6 offensifs, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais après, ce qui m'énerve, c'est que on fait des erreurs défensives de pupilles, quoi. Enfin, ça existe plus, mais bon.
Tu penses à quoi exactement?
Le but qu'on prend.
Sur le raté de Maolida, c'est une passe, c'est peut-être en retrait.
Celui-là, ouais.
Non, ça c'est cadeau, c'est Saint-Maximin. Mais nous, on est dans le stade, déjà, on voit le ballon en l'air, on sait que Moubandjé va faire l'erreur de faire la tête en retrait, pas assez forte. Ça, on est dans le stade, on le voit d'entrée. Mais même sur le premier but, ça c'est une erreur qui m'énerve aussi, c'est parce qu'il y a deux fautes sur des Toulousains. À deux moments, t'as deux fautes. Ou pas, je sais pas, j'ai pas vu les ralentis ou autre. Mais les Toulousains demandent de fautes et ils s'arrêtent de jouer.
Ouais, ils s'arrêtent de jouer,
mais t'as pas 12 ans. T'as pas 12 ans, continue à jouer. Mais un tampon, fais faute, prends un jaune, ça fait rien. Mais ne lève pas le bras à demander la faute, parce que une fois tu crois qu'il y a faute, l'arbitre laisse jouer, il y a encore un contact, un Toulousain qui tombe, tu demandes encore la faute. Non, arrête de demander des fautes. Joue, mais des bois toi aussi, si ça doit marcher comme ça, fais comme ça. Fais-toi respecter. Julien, je sais pas, il fait encore peur en défense.
Il est décevant.
Et c'est qui nous sort encore la baraque?
On a tellement cru que c'était un bon.
Ben ouais. Mais après, je vais te dire, première année, le mec il nous met 6 ou 7 buts, il est bon en défense avec Diop, donc on pensait que c'était un futur bon, quoi. Après, ça fait deux ans qu'il est mauvais, et c'est encore le gamin, c'est Todibo qui nous sauve sur la tête en retrait encore. Sur la tête en retrait de Moubandjé, c'est Todibo qui nous sauve le match. C'est un gamin encore. C'est un gamin, il a 19 ans le mec, c'est le taulier en défense depuis 4-5 matchs. C'est pas normal. Julien, il est toujours pas là. Je comprends pas. Après, il nous manquait Amiens à droite, et c'est vrai qu'Amiens, c'est un petit jeune de 20 ans, mais qui fait énormément. Ouais. Ça fait, il a de la caisse le gamin, depuis 2 ans il joue, et c'est un très bon joueur. Et après, je comprends pas pour l'instant, moi, les choix de Casanova, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait venir des gens du centre de formation, et pour l'instant, on les voit pas.
C'est quoi ça qui pense à son milieu de terrain? La meilleure organisation de son milieu de terrain, mettre Garcia dans les meilleures conditions, parce que c'est quand même un joueur qui est rare.
Mais c'est Sangaré-Bostock ou Sangaré-Cahu.
Exactement.
C'est Sangaré-Bostock ou bien Sangaré-Cahuzac. Tu sais que Cahuzac, c'est ses premières minutes de l'année, hein.
Mais ça, je comprends pas non plus.
Mais c'est là où tu vois.
Moi non plus. Mais tu sais, je vais te dire, c'est le stade entier qui comprend pas.
Vas-y Ludo.
Non, je disais, on voit aussi qu'il a vite trouvé un 11 type et que finalement en profondeur de banc, t'as pas énormément de choix.
Bah t'as des choix quand même.
Dès que non, t'as pas énormément de choix.
Au milieu, t'as Bostock, bon il est pas là soir, tu peux mettre Cahuzac, ouais. Tu peux même mettre Mbia, mais il faut entourer Garcia
soir,
de
voir Bostock. Ce soir Bostock est pas là, tu vois le milieu de terrain ce que ça donne.
Mais tu pouvais mettre Cahuzac ou Mbia.
Mais Cahuzac il t'amène pas ce que Bostock il peut t'amener. Cahuzac il est là, il sait faire il rentre à un moment où ils avaient besoin d'impact offensif d'impact, il le fait très bien. Bostock il a non seulement cette capacité à pouvoir alimenter les attaquants, mais aussi à être bon. Donc moi je trouve que ouais, tu manques de profondeur de banc et dès qu'il manque un peu de monde, bah la machine
On remercie Younes qui nous a appelé au 3216. On accueille Quentin pour faire l'évaluation de ce Toulouse-Nice un partout. Salut Quentin.
Salut les gars.
Quentin, supporter de Nice. Alors Quentin.
Alors.
Qui est ton cador ce soir?
Mon cador. Alors il y en a deux. Attal forcément pour au-delà de son match, sa confirmation, parce que c'était pas donné hein, quand même qu'une recrue comme ça qui se blesse régulièrement et qui a rien prouvé pour l'instant soit aussi complet dans ses matchs, aussi régulier avec peu d'erreurs, même s'il y en a quand même certaines, il est vraiment régulier. Et Srarfi, au-delà de son but, je l'ai trouvé intelligent dans ses déplacements, volontaire, avec pas mal d'intelligence de jeu, donc ça c'était pas mal. Après, pour le Gasper, je sais pas si on doit l'appeler Gasper.
Attends,
me projette trop vite.
Calme-toi, Quentin.
Tu es votre cador ce soir, les gars.
Ouais, moi, je vais mettre Srarfi.
Arrête de toucher ton micro, ça fait du bruit.
Je vais mettre Srarfi.
Srarfi?
Tu me parles pas plus jamais comme ça. Non, je vais mettre Srarfi parce que c'est un joueur qui a une sensibilité technique qui m'a touché particulièrement sur ce match-là.
Tu mettrais qui toi?
Sur le deuxième but là, cette fin de frappe décaler Maoulida, elle est magnifique. J'ai trouvé bon. En plus, il a pas joué souvent là depuis le début de saison.
Moi, je rejoins Ludo aussi. Parce que en plus de ce que Ludo a dit, bah parce que je l'ai trouvé quand même très discipliné dans son couloir et qu'il a apporté de l'équilibre au bloc niçois.
Qui est votre pied carré ce soir? Je pense que là, ça va être assez facile,
obligé,
Quentin. Tu mets qui, Quentin, toi?
J'en mets deux. Je suis comme ça.
Toi, t'es François Bayrou, toi, tu sais pas choisir.
Ouais, c'est ça. M'insulte pas aussi, s'il te plaît. Je mettrais Tamézé pour son énième match catastrophique. Je sais pas. En plus, je comprends pas, parce qu'on a un coach comme Vira avec sa carrière de milieu de terrain, etc. Ouais. Je pense qu'il donne des conseils à Tamézé. Tamézé, il est pas bête, il entend, il est tout sourire tout le temps, mais il a aucun impact physique, il apporte rien, il joue toujours en arrière, c'est insupportable, il perd des ballons encore, mais c'est on dirait de la nationale, c'est pas possible, et à chaque fois, il est lent dans ses déplacements, donc déjà, il y a Tamézé, et Maolida, non mais là, c'est pas possible. 10 millions d'euros, tu me mets sur le terrain, mais 10 fois, je te l'amène, n'importe qui te l'amène.
Ouais, après, on va juger sur une action pour
être. Non, mais il n'y a pas que ça, Nico. Je vois tous les matchs. Je l'ai vu jouer en vrai, hein. Je te jure, c'est pas possible. À chaque fois, et devant le but, on a l'impression qu'il sait pas quoi faire. Il est trop lent. Si tu la mets pas, tu vas en attention.
Ce sera Maoulida, en tout cas, le pied carré.
Dernière chose, petite parenthèse. Il me fait penser beaucoup, Jonathan, tu as dû le savoir aussi, il me fait penser beaucoup à Pléa dans ses débuts. Quand Pléa a commencé à Nice, il était catastrophique. Il lui a fallu au moins 6 bons mois pour s'adapter. J'espère que ce sera la même chose, mais là, il faut qu'il soit sur le banc.
Je pense qu'au Maoulida, elle a un potentiel supérieur à Pléa.
Bah, le taulier faut qu'on avance, les gars. Le taulier de ce Toulouse-Nice.
Moi, j'ai envie de mettre Erel.
Ça dépend
Erel.
Si t'appelles le taulier.
Erel ou Dante,
Erel.
J'aime bien Saint-Maximin.
Moi, je trouve, pour ce qu'il fait depuis le début de saison, l'énergie qu'il met pour aider
cette équipe. Franchement, il est toujours bon.
Non, et franchement, je mets
Erel parce qu'Erel, quand même, c'est le garant de la solidité derrière.
Il a fait des progrès, pas serein sur tous les matchs.
Erel, moi, je vais mettre taulier. J'ai envie de le mettre taulier.
Et ben, on mettra Saint-Maximin.
Merci.
Salopard.
C'est pour toi, Ludo.
Ah, il a pris sa retraite, ça y est, il a droit.
Qui est pour vous le Casper de ce Toulouse-Nice? On a mis aucun Toulousain pour l'instant dans sa
carrière. Tamézé.
Ah, mais Moubélé.
Ouais, Moubélé.
Moubélé, c'est indigent.
On devrait l'appeler plus Casper, mais l'indigent.
Voilà, l'indigent,
après
c'est Moubélé. L'indigent, c'est Moubélé. Oui,
cette évaluation de ce Toulouse-Nice, Cador, on a mis Srarfi, en pied carré, Maoulida. En taulier Saint-Maximin et en Casper, on a mis Moubélé. Quentin, merci d'avoir été avec nous.
Ouais, pas de souci. En espérant qu'on se rappelle pour une victoire, si Maoulida veut bien se réveiller et si on a envie enfin de gagner un match.
Allez.
Non, mais même contre les anciens matchs, si vous avez regardé un peu les matchs, allez, etc., c'est pas la première. C'est pas la
première. Une petite soca, un petit rosé,
tout ira bien. Merci Quentin, en tout cas, dans quelques
allez,
instants.
Gars, bonne à vous.
Salut, à demain à 17h, il y a un match entre Lille et Saint-Etienne, supporter du LOSC, supporter des Verts, on vous attend au 32-16. Lille et Saint-Etienne sont-ils vraiment des outsiders? On vous pose la question. Et puis également, aujourd'hui, la conférence de presse de Vahid Halilhodžić. Vous allez voir, ça a parlé de Brigitte Bardot, ça a parlé d'humanisme également. On écoutera Vahid juste après ça.
Ouais, je vous jure. RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardy ce soir. Première affiche de la 9e journée de Ligue 1, un partout entre Toulouse et Nice. On a analysé ce match, bien entendu, messieurs, il y a quelques instants. Avec vous également au 32-16 sur l'application Direct Studio également. On va se plonger déjà dans les affiches qui nous attendent ce week-end. Demain à 17h. Lille-Saint-Etienne, alors bien derrière le PSG hein, tout de même, on retrouve ces deux équipes. Choc d'autre tableau, Lille qui est deuxième avec un point d'avance sur Saint-Etienne. Question, Lille et Saint-Etienne sont-ils vraiment des outsiders? Juste pour vous aider à répondre, on va écouter Jean-Louis Gasset, alors qu'il compte qu'une seule défaite cette saison. 4-0 c'était d'ailleurs au Parc des Princes. Jean-Louis Gasset a peur que ses joueurs relâchent la pression. Écoutez-le, c'était en conférence de presse.
Ce que j'appréhende, c'est le relâchement. Je les ai vus cette semaine, c'est vrai que je les ai trouvés relâchés. On m'a rappelé que la semaine a été un peu thalasso et qu'il faut resserrer les boulons. Il va falloir qu'en 48 heures, on retrouve l'esprit qui nous a permis de prendre 9 points en 7 jours. La thalasso, c'est si j'ai un petit bobo, je fais un peu de vélo. Ah ok. Mais on fait pas le Tour de France.
Hein. Voilà. Il est bonnard.
Bien sûr qu'il est bonnard. Il est bonnard et puis il fait du bon taf.
Et puis il a raison dans ce qu'il dit. Ouais. Non mais c'est marrant dans ce qu'il dit parce qu'on voit très bien qu'il essaye de prévenir le danger quoi. Il est prévenant. Ouais. Simplement je pense dans ses déclarations.
Mais est-ce que pour vous c'est de vrais outsiders Lille et Saint-Etienne?
Je pense que sur ce si alors d'un point de vue comptable oui effectivement ils sont là présents au classement. Après si on regarde le contenu des matchs, je pense qu'on a tous vu quasiment tous les matchs de Lille et tous les matchs de Saint-Etienne. Dans le contenu Lille a plus de certitude. Ok, on a été plus enthousiaste. Il y a plus de certitude dans le jeu avec Lille. Il y a plus d'identité de jeu qui se dégage de Lille. Et il y a plus de matchs un petit peu chanceux du côté de Saint-Etienne. Je repense à plusieurs matchs que Saint-Etienne a fait où c'était carrément des hold-up où ils gagnent alors qu'ils devaient pas gagner. On n'est pas encore sûr. Après Saint-Etienne, quand tu regardes le potentiel de leur effectif, si ça se met en place, s'il arrive à trouver la bonne formule, notamment devant, parce qu'on se rappelle le match qu'on a vu la semaine dernière où c'était devant, on n'a pas compris par exemple pourquoi Johnny était dans un couloir, s'il arrive à trouver la formule devant, je pense que Saint-Etienne a plus de potentiel pour briller que Lille.
Ludo.
Rien que le fait d'énoncer cette affiche, elle, tu vois, la réaction que ça suscite, elle paraît quand même alléchante. Tu vois, t'as dit, ouais, j'ai hâte de le voir ce match.
J'ai dit ça, moi.
Ouais c'est un mytho.
Mytho.
Et donc oui,
non, mais ce qui est vrai, d'ailleurs,
pour moi, au vu du début de saison, on peut pas dire comme Jonathan vient de le dire, Saint-Etienne, on reste cependant encore un peu sur notre fin.
Oui.
Ils sont troisième, donc ça veut dire que la marge de progression elle est encore énorme.
Exactement.
Et c'est deux équipes qui ont trouvé une homogénéité dans la construction de leur effectif, qui se ressemblent un petit peu derrière, avec deux entraîneurs qui connaissent très bien la Ligue 1, qui sont des vrais tauliers, qui sont des vrais meneurs d'hommes, qui savent gérer la communication, qui savent gérer la tactique. Donc déjà ça part de ça. Ils ont deux coachs formidables, je trouve. Ensuite, t'as des défenses avec des joueurs expérimentés. Après la clé à Saint-Etienne. La clé pour moi est offensive, c'est-à-dire que sur la complémentarité des joueurs offensifs, la clé sera là. À Lille, ce que j'ai vu contre Marseille, ça m'a beaucoup surpris. Une équipe très athlétique. J'ai vu Marseille complètement exploser dans les duels, c'est-à-dire que la clé à Lille, il va falloir qu'ils tiennent ce niveau de forme.
Ils vont à 1000 à l'heure devant.
C'est ça qu'il y a beaucoup de pressing.
Ils ont un jeu très très vertical. Il y a des courses, il y a énormément de courses à haute intensité.
Je vais toute proportion garder, mais c'est un peu le Liverpool de la Ligue 1, Lille en ce début de saison.
Bah, et Liverpool qui est en train de fatiguer là, hein, 3 matchs en victoire. Hein,
mais
il y aura un beau match d'ailleurs samedi, je vous le dis déjà, hein, 17h30, dispositif après, exceptionnel sur MC Sport sera face à City. Hein, gros match à venir.
Ludo, Nico, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que quand même, en termes de potentiel, quand tu regardes l'effectif de deux équipes, Saint-Etienne a un meilleur effectif.
Je suis pas d'accord.
Quand même.
Je suis pas forcément d'accord.
Ah quand même.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça?
Bah c'est que tu regardes le 11 de départ, il est quand même très solide et je pense que la seule chose qui leur manque.
Faisons un petit point de comparaison tiens pour rigoler.
Alors
tu prends les gardiens de but. Bon les gardiens de but.
Je prends Ruffier.
Ah bah Maignan, il fait une saison de foufou.
Je prends Ruffier pour la durée de la saison, je prends Ruffier. Ruffier c'est l'assurance tout risque.
La charnière centrale,
je prends Subotić Perrin.
T'as un taulier, donc il y a deux tauliers plutôt.
Moi je prends Font direct, hein, je le mets dans un des deux. Je préfère Font à Subotić.
On fait par paire, Nico.
Mais pas nécessairement, non. Si on fait joueur par joueur.
Je veux bien te suivre là-dessus, mais moi je prends Subotić Perrin. Je prends Subotić Perrin.
Moi je prends Font Perrin.
Ouais.
Sans hésiter, hein. J'ai vu le match de Fonde. Franchement, c'était impressionnant contre Marseille.
C'est un bon joueur.
C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui est un vrai meneur dans cette équipe, qui sait gérer les temps forts, les temps faibles, qui sait faire monter son bloc. Honnêtement, je l'ai vu brillant face à Marseille. Okay. Les latéraux, le petit Tchelik là, il est excellent. Balou Touré, c'est.
Après, tactiquement, il a encore des progrès à faire à Tchelik.
Je prends Debuchy Colo, c'est meilleur. Eh oui, Debuchy Colo c'est meilleur. Ils sont très bons, ça veut pas dire que les joueurs la comparaison avec Lille est moins bonne, hein, mais que Debuchy Colo c'est quand même au-dessus. Après au milieu de terrain, tous les jours je prends Mvilla Selnes. Tous les jours.
Ah, Thiago Mendes, attention, hein, c'est.
J'aime beaucoup Thiago Mendes. Ça veut pas dire que j'aime pas Thiago Mendes.
On arrive dans le secteur également qui est sympatoche,
c'est intéressant.
Pépé, etc. C'est pas mal aussi, hein, du côté
devant Lille, c'est très intéressant. Ouais. Et surtout, je pense que Galtier a très vite trouvé les complémentarités. Je pense que le problème de Gasset, c'est d'arriver à trouver les complémentarités entre Cazeri, Cabella, quel avançant tu mets, quel autre joueur de couloir tu leur adjoins. Et je pense que pour l'instant, si Saint-Etienne nous a pas donné une meilleure impression, parce que pour l'instant on va pas se tromper, c'est Lille qui nous donne la meilleure impression, mais Saint-Etienne, s'il résout le casse-tête qu'il a un petit peu offensif, je pense que c'est quand même
l'équation
meilleur.
elle est de trop.
Cazeri Cabella.
Déjà, mais aussi parce que t'as énormément de joueurs qui rentrent dans l'axe du terrain. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver quand même cette largeur pour pouvoir bouger la défense adverse.
Exactement.
Et qu'ils se retrouvent pas tous au même endroit en même temps.
Exactement.
Les gars, on accueille Eric, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Eric. Bienvenue dans l'after, Eric. Et alors, comment tu le sens le match de demain? Est-ce que pour toi Lille et Saint-Etienne sont deux vrais outsiders? Alors, c'est seulement la 9e journée de Ligue 1.
Complètement. Alors vraiment pour des raisons un peu différentes. Alors Lille, on a l'impression que, enfin, moi je suis beaucoup Lille. J'aime beaucoup Saint-Etienne. J'aime beaucoup les supporters, le club et tout ça. Vraiment. Et je suis content que ce soit deux clubs qui brillent. Mais peut-être que vous jouez sur le 11 de départ, mais il y a la profondeur de banc aussi qui dépend, et un petit peu aussi le fait que Lille a été ultra poissard l'année dernière, et cette année, il semblerait que c'est différent, parce que Saint-Etienne, ils arrivent à Lille avec Cazeri qui a passé une IRM dans la semaine, donc le mec qui a planté deux buts au dernier match, qui est plus indispensable que Cabella. Loris Diony, moi je le trouve vraiment pas terrible, si ça tombe, il a un potentiel, mais que j'ignore encore. Nous on a Loïc Rémy qui est pas bon non plus en pointe, mais j'ai l'impression que Lille avec Galtier, je pense que Gasset est quelqu'un de très intéressant.
C'est un moins bon entraîneur.
Mais bien sûr. Et du coup, peut-être qu'on pourra servir un match un peu plus hard physiquement et dans les duels et tout ça, et dire que avec nos trois bonhommes de devant, peut-être que la pointe va être Léao ce week-end, je sais pas trop, mais il faudra pas que Saint-Etienne se plante. Parce que certes, Subotić et Perrin, c'est une très bonne charnière, mais quand t'as trois mecs qui vont les harceler tout le match, d'accord, quand ils vont taper dans le genou, ça va tomber, il y aura des coups francs, il y aura des pénaltys, parce que Pépé, il lui faut rien pour faire la différence, mais il connaît aussi, et Bamba aussi, j'ai peur que, en fait, j'ai pas peur, je suis content, mais je pense que Lille a une capacité de harcèlement un petit peu supérieure, et de hargne aussi. Parce que Cabella,
je pense que
Cabella, au bout de 60 minutes d'un match un peu complexe, tu vois, il va se lasser. On le voit très bien.
Lille, en fait, si tu regardes les joueurs intrinsèquement, c'est pas des joueurs qui sont forcément meilleurs que ceux de Saint-Etienne, mais ils ont une densité et un potentiel physique qui est excellent, qui est supérieur, et surtout Galtier a trouvé la vraie combinaison.
Ils ont une capacité à provoquer l'adversaire qui est...
Les trois, c'est non-stop.
Les trois devant, c'est non-stop. Physiquement, ils sont capables de répéter les efforts, c'est hallucinant. Moi, j'étais au stade. Franchement, j'étais vraiment impressionné.
Merci Eric de nous avoir appelé en tout cas.
Salut Eric.
Merci beaucoup. Bon match. Et écoutez, bon match à Saint-Etienne. Yes. Bon match à Lille. Ça nous fait plaisir un peu avec des années de merde de profiter de matchs sympas comme ça. Nous, on est très contents de prendre Saint-Etienne.
T'as pas un petit mot pour Ludo qui a pris sa retraite là?
Ah putain, et Ludo. Ludovic, attends, franchement, sincèrement, c'est cool de pouvoir te parler comme ça, qui est dans le studio et tout ça. Ludovic. Dis-moi. Merci pour ce que t'as fait pour le LOSC. Merci pour ton putain de coup franc qui a éclaté Paris et tout ça sur son poteau. Et tu sais quoi, même quand tu nous as traumatisés avec Bordeaux, où vous êtes revenus de je ne sais où, où tu nous as mais fait chier au Stadium Nord et tout ça, merci beaucoup. Moi, je me souviens que c'était un mec ultra adorable. Je me
ouais, sur le terrain, parce qu'en vrai, c'est un salopard. Hein.
Mais pas du tout, avec son gros chien, t'avais quoi, un Terre-Neuve?
Un Terre-Neuve, ouais.
Écoute, mais attends, Ludo, merci. Ah, écoute, je te jure que en fait, c'est dingue parce que cette saison à Lille où t'as brillé et tout ça, t'as été, et ce qu'on oublie beaucoup dans les analyses, t'as été un peu le super sub, tu vois, parce que quand ça passait pas dans des matchs
atroces... Oh non, il n'y a que ça quand même, merde.
Attends,
c'était le super sub.
Ça n'allait pas. Attends, on avait Gervinho, Hazard et tout ça. Quand ça n'allait pas, c'était simple, c'était Ludo et Tullio, tu vois. Et ça marchait pas, machin. On rentrait le pied gauche
et
de
le
Ludo.
Et n'oublie pas Pierrot aussi.
Oui, mais bien sûr. Ouais. Attends, je me souviens de ce match contre Lens où j'étais en tribune Marek. J'étais caché, je faisais semblant que je supportais Lens et tout ça, je devenais fou.
T'as gardé
merci
contact
Ludo.
Avec Tullio ou pas d'ailleurs, Ludo?
J'ai toujours en contact. Je suis
quel mec extraordinaire, lui.
Je suis encore toujours en contact avec beaucoup de joueurs de l'époque.
Il y a, c'est vrai que, alors, franchement, c'est tellement bateau ce que je vais dire et cliché, mais vous étiez quand même un super groupe. Hein. Moi, je connaissais pas mal de joueurs de votre génération à l'époque, justement.
Mais on a mis énormément de temps à en arriver là. C'est-à-dire que on a joué ensemble pendant des années. Et c'est ça, ça a été rajouté les transferts, en fait, les talents ont été rajoutés par petites doses, donc ce qui fait qu'on avait à chaque fois déjà une ossature de joueurs qui se connaissaient depuis longtemps, et à chaque fois on avait la plus-value de joueurs brillants. Là, il faudra féliciter Rudy Garcia d'avoir été recherché Gervinho.
Ça lui fera du bien à la visitation.
Bon, Eden, Tullio aussi. Eden, ça sautait aux yeux qu'il allait percer. Mais c'est vrai qu'il y avait une osmose à ce moment-là dans l'équipe, et c'est moi, je suis partisan de penser que quand l'ambiance, l'atmosphère est là, elle contribue quand même beaucoup au résultat.
Eric, merci de nous avoir
merci
appelé.
Pour le
et on va
lui
faire un t-shirt de l'after. Voilà, incitation à la lèche, bien entendu.
Sur un plateau, hein.
Et si un mec appelle au 32-16 dans quelques instants et qui fait pareil avec moi, il en aura deux.
Voilà. Et par contre, Pierre Ducrot, là, il prend des photos avec son smartphone sur la route en train de dire qu'il nous écoute. C'est dangereux le téléphone sur le volant.
Et peut-être que quelqu'un prend les photos pour lui.
Moi,
je le connais, mon cousin, et je sais qu'il est prudent au volant.
Attention, Pierre.
Je pense que quelqu'un prend les photos pour lui.
T'es sûr?
Non. Mais on va dire ça comme ça, c'est mieux.
Tiens,
juste
Pierre.
Une petite stat également. Sachez-le, demain, il y a ce match, donc, entre Lille et Saint-Etienne. La dernière victoire de Saint-Etienne à Lille en Ligue 1, c'était en septembre 1993. Mmh. 1993, je vous donne les buteurs, Cyprien et Étienne Mendy. Victoire 2-0 de Saint-Etienne à l'époque. Hein. Ça remonte. Hein. Dans quelques instants, on va écouter Coach Veit.
C'est retour en Ligue 1. C'est after et c'est tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Ludovic Obraniak et de Jonathan McCarthy. On vous rappelle que ce soir, Toulouse et Nice ont fait match nul, un but partout. Première affiche de la 9e journée de Ligue 1. Demain à 17h, il y aura Lille-Saint-Etienne, choc de haut de tableau. Et puis dimanche à 15h, ce sera la première de Vaïd sur le banc du FC Nantes. Première du côté de Bordeaux. Les Nantais qui ont découvert leur nouvel entraîneur ces dernières heures finalement, puisqu'il vient d'arriver, coach Vaïd, qui a été présenté hier à la presse, qui était aujourd'hui en conférence de presse, Vaïd Halilhodžić. Et écoutez-le, coach Vaïd, ses nouveaux joueurs sont déjà dans le love de Vaïd.
Première discussion, ça a été vraiment impressionnant. Tout le monde m'a regardé avec les yeux, comme ils ont regardé une belle fille pour Brigitte Bardot. Hein. À l'époque, oui. Quand même.
Et voilà, il se compare à Brigitte Bardot. C'est marrant de voir coach Vaïd comme ça quand même.
Non.
Bah, pourquoi non?
Parce que c'est un choix qui est ridicule, c'est un choix qui est pas cohérent du tout.
Non mais lui il dit plus rien,
c'est
il a été choisi.
Dans le projet du club, c'est nul. Et quand on voit ce qu'il a fait, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait par le passé. Mais c'est un entraîneur qui est dépassé. Et de le revoir arriver en Ligue 1, je trouve ça désolant. Mais après, c'est mon opinion.
Non mais d'accord, mais là c'est sympa de le voir
oui,
comme ça,
bah,
de bonne humeur.
De faire un bon mot et tout. Mais moi ce que j'attends, c'est de voir comment va faire jouer Nantes. Et quand tu vois la manière dont l'effectif a été construit, quand tu vois la manière dont l'intersaison a été gérée en prenant Cardozo qui était là pour installer un projet sur le moyen terme, de voir Vaïd arriver au mois d'octobre, et ben je trouve ça déplorable. Mais après, c'est que mon avis.
Ludo, non, ça fait pas sourire de voir Vaïd comme ça.
Si, ça fait plaisir, mais bon, je connais le personnage, donc je sais que ça durera qu'un temps.
Tu l'as eu?
Non, mais je suis arrivé juste quand il est parti en fait jonction avec le QL.
D'accord.
Et donc bon, j'ai vécu avec le groupe qu'il a managé pendant quelques années.
Ils étaient
donc,
comment les mecs?
Traumatisé? Non, pas traumatisé. Au final, c'est quelqu'un d'attachant, mais c'est vrai qu'il est dur quoi. C'est la rigueur constamment. Donc ce genre d'entraîneur, il t'use à un moment donné. Donc C'est pour ça que je suis pas aussi catégorique que toi. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose du côté de Nantes, notamment des fois entre deux gros caractères, Kita et lui, peut peut-être se passer quelque chose. On a l'impression qu'ils s'adorent les deux. J'ai l'impression que Kita
avec les joueurs,
avec les joueurs, il va y avoir l'électrochoc du début où c'est coach Vialli qui arrive. Tu sais ce qu'il faut, tu sais ce qu'il attend de toi. Il va te demander.
Tu crois que les joueurs que tu nous parles souvent de ton expérience à Auxerre où t'étais un peu, t'as eu une sorte de choc de génération. Je pense que les joueurs qui sont quand même des joueurs un petit peu jeunes. Tu penses que ça va passer ce genre de discours avec eux?
Honnêtement, je pense pas sur la durée, non. Mais bon,
voilà. On est d'accord que ce qui est décevant, c'est que Nantes à l'intersaison, ils nous annoncent un projet sur le moyen terme et que là, c'est du rapistolage, quoi.
Bah, c'est un choix émotif du président. Je sais pas si c'est le bon choix. Honnêtement, j'en doute. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Alors, je sais pas quel impact il peut avoir sur ce groupe, mais c'est vrai que le côté old school, hyper dur.
Alors justement,
je sais pas si ça marche.
C'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'il y a un autre extrait d'ailleurs de Vahid Halilhodžić en conférence de presse aujourd'hui. Lui, il voit déjà des signaux positifs finalement de la part de ses nouveaux joueurs. Écoutez-le.
Mais je pense sincèrement et honnêtement, ces premiers contacts, c'était positif. Ils ont un petit peu déstabilisé, un petit peu, ils ont perdu. Je me rassurais psychologiquement, pédagogiquement, il faut que je donne force. C'est pas un traitement de choc, c'est un traitement de soutien. Il y a un choc qui peut, ça peut marcher, ça peut pas marcher chaque fois.
Voilà, ça peut marcher comme ça peut pas marcher finalement.
Est-ce qu'il peut changer son caractère? Est-ce qu'il peut changer son caractère? Là est la question. Ah, je sais pas quel âge il a, coach Vahid, mais je le vois pas à plus de 60 ans.
66 ans.
Changer du jour au lendemain comme ça.
Alors, 66 ans, il y a un autre élément d'ailleurs, qui d'ailleurs on n'a pas forcément beaucoup souligné. Il a surtout été sélectionneur, ces dernières années, Vahid Halilhodžić. Il a eu une expérience en club, c'était en 2014 du côté de la Turquie, ça n'a pas duré très longtemps non plus. C'est différent, d'être sélectionneur.
Non, surtout, il a été sélectionneur du...
Quoi, du Japon?
Du Japon. Ouais. Avec des joueurs qui sont quand même, je vais pas faire des raccourcis et des clichés, mais c'est quand même des joueurs qui sont quand même ultra disciplinés, et même eux.
Enfin, là, dans la nouvelle génération, ils sont pas tous ultra disciplinés.
Si ce groupe-là, pourra un petit peu étudier la question en étant fan devant l'éternel de notre ami Hiroki, c'est quand même des joueurs qui sont quand même disciplinés, qui sont habitués à une certaine structure, même avec eux, c'est pas passé. Même avec eux, ça passait plus à la fin. Alors qu'il les avait que 15 jours par-ci par-là.
Attendons de voir.
Tiens, on va écouter Valentin.
Mouille-toi un peu, c'est l'after, Ludo.
Non, je veux pas être catégorique là-dessus. Pourquoi? C'est, bien sûr, on connaît tous coach Vahid, mais des fois, il peut y avoir des choses qui se passent dans le football. Le football n'a rien de logique. Il peut se passer des fois des choses dont on ne comprend pas tout. Et pourquoi pas? Okay. J'en suis pas persuadé. J'ai envie de lui laisser
une
chance.
C'est quand même ultra déceptif d'être passé d'un projet ambitieux avec Cardozo, qui était un projet sûrement à terme, de passer à du rafistolage avec Vahid.
Quand vous reprenez les déclarations de Valdemar Kita lorsqu'il nomme Cardozo, il explique que c'est un projet à long terme. Et là, où il explique que Vahid est là et qu'il le veut jusqu'à la livraison du prochain stade, qui est pas pour tout de suite. Oui, effectivement, à chaque fois, ils y vont. Tu sais, l'amour est éternel tant qu'il dure, comme dit l'autre.
Bravo.
Non, c'est beau ça.
C'est ce que tu m'as dit le premier soir, bébé.
Et finalement, je t'ai eu, c'est terminé. Toujours pareil, de toute façon. Vahid et ses méthodes parfois rigueuses, fait-il peur aux joueurs nantais? Valentin Rongier, ne croit pas à ce qui se dit dans les médias. On l'écoute.
Je pense qu'on voit un petit peu tout et n'importe quoi dans les médias, en disant que c'est, enfin, moi, j'ai même lu que c'était un dictateur, un tyran, mais c'est loin de tout ça. Il a ses méthodes. Il aime bien quand tout est carré. Mais, on s'attendait pas, en tout cas, à ce qu'on lisait, et on est agréablement surpris, parce que même si il est, comme je l'ai dit, assez strict, assez carré, il est très accessible.
Voilà, donc pour l'instant, tout le monde est sous le charme. Ouais. Il en a rêvé, Vahid, on va voir.
Il est dans son rôle, Valentin Rongier. Il est capitaine de cette équipe. Il va pas arriver, il va pas dire, ça s'est mal passé, il nous a fracassé, on n'a pas envie. Bien sûr que pour l'instant, c'est les louanges. On verra.
Bordeaux-Nantes, ce sera dimanche à 15h, dimanche à 17h, Marseille-Caen, l'OM qui hier menait 2-0 face à l'Apollon Limassol, a finalement concédé le nul 2-2. Une victoire en 5 matchs pour l'Olympique de Marseille. Question, Marseille a-t-il perdu sa force mentale? Je sais que tu voulais particulièrement parler de ça, toi.
Mais c'est pas ça. C'est que l'année dernière, moi, j'ai été, comme tout sympathisant marseillais, parce qu'on va pas se le cacher, j'ai été sous le charme de la saison dernière, parce que le parcours était beau, c'était une équipe qui en avait des grosses entre les jambes. Donc je pense que c'est beaucoup passé grâce à ça. Mais je continue de penser une chose, et j'ai pas retourné ma veste l'année dernière, mais je continue de penser que Rudy Garcia, ce n'est pas un entraîneur pour un club comme l'Olympique de Marseille, tout simplement. Et je pense que les choix qu'il fait depuis le début de la saison sont pas inspirés. Je pense que la manière dont il se défausse après le match contre Limassol sur Tchaletatsar et sur Radonjic, bah c'est pas intelligent non plus, parce que tu es en train de flinguer deux joueurs qui ont coûté très cher au club et qui somme toute viennent d'arriver et qui ont besoin de temps pour s'adapter. Donc j'attends une réaction imminente, immédiate et de qualité contre Caen, parce que très franchement, quand on regarde les, tu vois, quand tu mets bout à bout tous les résultats de Garcia depuis qu'il arrive à Marseille, que ce soit en Coupe d'Europe ou contre les gros, c'est quand même alarmant. Alors on va pas lui enlever ce qu'il a fait la saison dernière, hein, y a pas de souci, c'était une saison qui était magnifique, qui avait vibré tout le monde, mais on attend à ce qu'il fasse passer un cap à ce club là et je suis toujours pas sûr que ce soit l'entraîneur qui leur qui soit capable de faire ça.
Bah pourtant la saison dernière, c'est pas forcément ce qu'il se disait, hein, mais
j'ai jamais retourné ma veste par rapport à l'année dernière. Je pense que c'était une parenthèse enchantée, qu'il a réussi à créer un esprit de groupe formidable, que les joueurs ont été tous motivés parce que voilà, ils étaient tous c'est quand même un mec sympa Garcia, y a pas de souci là-dessus, et donc du coup il a réussi à créer une émulation et quelque chose dans ce groupe là, ce qui fait que les joueurs se surperformaient à chaque match. Mais tactiquement, j'attends toujours de voir l'OM passer un cap.
Ludo.
Non, mais je vois cette équipe un peu dans le confort, peut-être dans le confort de la saison dernière qui les a amenés jusqu'en finale de l'Europa League. Après, voilà, on parle souvent du caractère et de la combativité de cette équipe. Ça a souvent masqué l'année dernière beaucoup de choses, mais aujourd'hui, pour être combatif, pour pouvoir aller à la guerre, il faut être en forme physique.
Il n'y a pas que ça, Ludo.
Non, sans déconner.
Les choix du coach,
c'est un retour de terrain, Sanson et Rami normalement.
Ça en fait partie. Il n'a pas été inspiré sur le mercato.
Non, mais même les compositions d'équipe.
Permets-moi de te dire que, alors je sais pas si c'est illusoire ou pas, mais ce que je vois moi, je vois pas des joueurs en parfaite forme.
Attends,
forme
je te donne juste un exemple, tu me dis ce que t'en penses. Quand le match contre Limassol, il commence avec Mitroglou, ok? Il commence avec Radonjic et Payet, ok? Deux joueurs qui font aucun centre dans la surface. Donc il joue avec Mitroglou. Mitroglou, évidemment, c'est un joueur, il a besoin de centre, il a besoin d'apport, tu vois, il a besoin de prendre des ballons de la tête, etc. Il a rien, il a aucun centre. En seconde période, il fait rentrer Bounassar. On sait qu'il y a une complémentarité entre Bounassar et Mitroglou. Surtout quand Bounassar joue à droite, c'est un vrai droitier, il envoie des galettes dans la surface. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il sort Mitroglou et il met Valère Germain, qui est pas un attaquant de surface. C'est quand même, tu te dis, tu regardes le match, tu te dis, mais ça sert à quoi ce changement? Et ça, des changements comme ça, il les a accumulés depuis le début de la saison. Comme ne pas faire jouer Bouba Camara tous les matchs, comme vouloir dire, comme toujours continuer de penser que Bouba Camara c'est un milieu de terrain.
Mais donc pour toi, il n'y a pas de problème, je veux dire, mental ou quoi? Parce que c'est vrai que la saison dernière, on avait, même s'il y avait de la qualité dans cette équipe marseillaise et qu'il y en a certainement toujours aussi, on avait tendance à dire qu'il gagnait beaucoup de matchs justement grâce à cette force mentale.
Ouais,
on a l'impression qu'on le retrouve plus.
Le problème qu'il y a, c'est que là, je pense que Garcia n'arrive pas à trouver l'équilibre, notamment au milieu de terrain, en défense. T'as un joueur qui vient d'arriver, qui a été payé 20 millions d'euros, Tchaletatsar. Tu sais pas comment l'intégrer. T'as Rami qui t'a sauvé beaucoup de matchs l'année dernière, qui est pas en forme. Et surtout, moi, je suis content que Strootman soit à Marseille. Je suis content que Strootman soit en Ligue 1. Mais on l'a vu sur le match hier. Hein. Ça, je le dis depuis le début de la saison. Gustavo et Strootman, au milieu, ça ne marchera pas.
Jonathan, la saison dernière, on a pu le constater, cette équipe, elle est excellente quand elle est au taquet, quand elle est
à
son meilleur niveau de forme. Or, je te dis, moi, ce que j'ai vu dimanche dernier au stade, j'ai vu une équipe un peu lourde, un peu pâteau. Tu sens qu'on n'est pas, dans les meilleures conditions physiques. Et quand t'es pas dans les meilleures conditions physiques, eh ben, tu peux pas donner autant que tu voudrais.
Mais même alors, on peut parler de choix tactiques, ce que tu veux. Les choses sont curieuses, quoi.
Cette équipe a pas été améliorée sur le plan de la qualité.
Gustavo, en défense centrale, dans une défense à 4, c'est pas à faire. C'est pas possible. Faut pas le faire. Faut arrêter.
Merci messieurs, merci Ludovic Obraniak, merci Jonathan McCarty, qu'on ne verra pas demain soir, parce que demain à partir de 22h30, Jonathan McCarty sera sur RMC Sport 4. Demain,
ça sera... Non, c'est pas ça, Ali Benar bien. Voilà. Et ça sera sur RMC Sport 4, UFC 229, McGregor, Khabib Nurmagomedov pour la ceinture des poids légers de l'UFC. Et il y a une main card qui est de toute beauté, ça, on sera en direct. Donc on sera une bonne bande, merci. Rejoignez-nous.
Merci beaucoup, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Et nous on se retrouve demain pour l'after, bien entendu.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
C'est ça.
Ça sera RMC Football Show, l'After Foot.